France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous au programme aujourd'hui, le troisième et dernier volet de La mémoire retrouvée de Renata Scotto, une émission que Mildred Clary avait enregistrée avec la soprano italienne en 1997 dans l'académie qu'elle avait fondée la même année à Albisola Marina dans le nord-ouest de l'Italie. Renata Scotto évoque dans cet entretien dans quelles circonstances elle a été amenée à réaliser sa première mise en scène et elle nous parle également de l'enseignement, un domaine qui lui tient particulièrement à cœur.
C'était Renata Scotto et Carlo Bergonzi dans Madame Butterfly de Puccini. Et c'est John Barbirolli qui était à la tête de l'orchestre. C'est une œuvre d'ailleurs qui a permis à Renata Scotto de faire sa première mise en scène.
Questo è per me una nuova carriera. Perché è stato
Ceci a été pour moi un travail nouveau. C'était un cas.
Nel 1986,
car au Met, en 1986, l'administrateur m'a proposé une nouvelle fois le rôle, ce que j'ai fait déjà tous les ans, toujours Butterfly. J'ai répondu
alors,
non,
lui m'a detto,
je ne veux plus,
assez.
Alors il m'a dit, et pourquoi alors ne pas en faire la mise en scène?
Alors la mise en scène,
si tu fais
la mise en scène, tu peux chanter et aussi faire quelque chose qui peut-être ça te plaît, parce que je sais que tu aimes beaucoup le théâtre et tu peux faire la mise en scène. Et moi, j'ai dit, moi, je ne sais pas si je peux, parce que c'est une grande responsabilité, comme j'ai toujours pensé que si je veux faire quelque chose, je dois le faire bien. Alors, j'ai pensé 4 mois et j'ai étudié. Pour 4 mois, j'ai étudié comme je pouvais penser de faire la mise en scène. Et après, j'ai dit, peut-être je vais essayer, parce que la production du Met de Butterfly était ce que moi j'avais toujours fait, et j'ai toujours mis quelque chose de mon, j'ai parlé avec les différents metteurs en scène, et j'ai toujours changé quelque chose en parlant, et j'ai dit, mais si je peux faire tout ça que j'ai dit pendant toute cette année avec les metteurs en scène, peut-être ça devient la mise en scène que je veux. Alors j'ai dit, oui, je vais essayer. Comme aussi le maître il me va offrir tout ce que je veux, con l'aiuto.
Oui, comme aide, comme assistance.
Comme assistance. Et le cœur sont des très, très jolies, très, très bonnes personnes. Ils me faisaient complètement confiance. Et alors, j'ai accepté. J'ai accepté. Et après ça, j'ai pensé que je pouvais faire. J'ai étudié beaucoup.
Votre regard sur cette œuvre est différent? Vous avez voulu faire quelque chose?
C'est complètement différent parce que c'est une autre vision, c'est une autre perspective. Moi, comme Butterfly, j'ai pensé seulement à mon caractère et à mon partenaire vu dans mon caractère. Non, Pinkerton était mon mari et Sharpless était mon ami. Suzuki était mon ami. Mais comme metteur en scène, c'est pas ça. Comme metteur en scène, ce sont des acteurs et chaque avec son différent rôle à interpréter. Et j'ai détaché moi-même de Butterfly. Et j'ai dit, maintenant je regarde et je parle de Pinkerton et je vais parler de lui, je vais voir qui est, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait. Et qui est Butterfly, qui est Suzuki, qui est Sharpless, qui est Goro. Et j'ai étudié tous les caractères, mais dans une autre perspective. Et changer tout, parce que c'est complètement différent. c'era un'altra cosa che io volevo dire, perché in America poi io sì, ho cantato Butterfly, ma poi était le moment que je pouvais vraiment être sicura.
Vous étiez maîtresse de ce que vous faisiez.
De moi-même, de ce que je voulais faire. Et j'ai rencontré maestro James Levine, qui était pour moi le plus grand ami que j'ai eu en Amérique. Il a compris ma personnalité et il a dit, Renata, tu fais ce que tu penses est bien de donner à ton public et moi je suis avec toi pour t'aider et pour te donner ma protection. Mm-hmm. Et on a travaillé ensemble et on a fait beaucoup de Puccini parce que je pensais qu'à ce moment-là, et on parle du 1973, 75, 79, on a pensé de faire tout Puccini et de faire aussi du verisme, mais je voulais faire du verisme avec bel canto, parce qu'il y a seulement une façon, et il y a seulement une façon de chanter bien, de faire de la musique. Mais avec la musique, on comprend les différentes époques, le période de Monteverdi, de Mozart, de Rossini, du romantique, de Puccini et du verisme. Mais la musique et le chant, c'est seulement une, chanter bien. Mais la construction musicale, ça change. Comme on a le long récitatif avec sec, non? Avec l'harpsichorde, et on a le récitatif chanté, et après on a une aria e una cabaletta. Ça c'est la prima costruzione. Après on a le classique, plus classique avec cherubini, spontini e on commence la grande opéra. Hein? Après on a Meyerbeer avec tous ces effets virtuosisme et aussi un peu classique, pas encore romantique. Rossini commence, mais Rossini c'est aussi récitativo, des airs dont on chante très bien expressé, mais classique encore. Et après on va vers le romantique. Le romantique c'est le dernier Rossini, mais surtout c'est Bellini. Et Bellini, c'est l'expression finalement d'esprimer l'umanità, il rapporto umano immediato di esprimere
les rapports humains qui peuvent exister entre les êtres, les sentiments, les pleurs.
Non, niente pianto.
Jusqu'à l'ère classique, pas de larmes. La tragédie,
ma
oui, mais sans larmes. Parce que les larmes sont sentimentales, ce qu'avec le romantisme nous nous permettons
cioè,
d'être. C'est-à-dire éprouver des sentiments humains pour les porter
Bellini
devant le public. Alors Bellini esprime,
bel canto,
mais toujours par le moyen du bel canto, les larmes.
Les lacrimes. Non noi,
mais non les nôtres.
Perché io dico sempre ai miei allievi,
celle du public, car je dis toujours à mes élèves.
Dico ai miei allievi, si deve
je
far
dis
piangere,
qu'il faut susciter les larmes,
piangere noi.
Perché mais sans pleurer soi-même surtout.
Piango,
car lorsque j'interprète les larmes,
la mia voce non esprime,
si ma voix pleure, la musique est trahie.
Perché un legato
car
diventa
un legato devient.
Et questo non è legato.
Ce n'est pas un legato, alors que.
Peut-être on pleut.
Thank you.
Attraverso il romanticismo arriviamo a Verdi.
Et à travers le romantisme, on arrive à Verdi qui amène un plus. Ce n'est plus seulement legato, il amène la force, une intensité dans la parole, l'accentuation. Et l'ensemble devient plus intense, la présence plus forte, ainsi que le drame, mais toujours avec la technique du bel canto. Puis on arrive au dernier Verdi, et là commence Puccini. Et avec le dernier Verdi, comme Falstaff ou Otello, la construction musicale n'est plus celle du récitatif. Puis l'aria avec Cabaletta, tout est réuni.
Il
y a un mot, une petite phrase, une grande phrase, encore un mot. Et ceci est récitatif et chant réuni. Et avec Puccini, commence le verisme. Toujours avec la musique, ceci ne change pas. Mais dans le verisme réside le mélodrame, une force dans les sentiments qui incite aux larmes, mais jamais l'acteur, seulement le public, les situations, Cavalleria Rusticana, Pagliacci, Francesca da Rimini, tout baigne dans le mélodrame, la force des pleurs. Ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile à chanter. Puccini, Manon Lescaut, Renata Scotto avec l'Orchestre symphonique de Londres dirigé par Gianandrea Gavazzini. Je vous disais hier que le mois dernier a eu lieu l'inauguration de l'Académie Renata Scotto à Albisola Marina près de son lieu de naissance, Savona. Un retour aux sources pour un domaine qu'elle aime beaucoup, c'est-à-dire celui de l'enseignement. Ses cours ont été régulièrement ponctués par des concerts publics, des élèves, en plein air. Cela se passait dans le jardin d'une admirable villa voisine. Et à une de ces occasions auxquelles nous assistions, les notables de la région ont présenté à Renata Scotto un grand portrait d'elle, entièrement réalisé en céramique. Ce travail est la spécialité de la région. Renata Scotto était très émue.
Ceramista bisolese Turi d'Albisola ha voluto rendere un omaggio e gli porgono adesso i ragazzi. Un po' ingombrante, ma...
Ancora non ho lavorato molto, mi c'erano i ragazzi.
Lo apriamo però,
Oh, grazie, è troppo bella. Io non so, veramente sono... Grazie, è una grande sorpresa, io ringrazio infinitamente tutte le persone, le personalità, le autorità. Tutti per il grande piacere che mi hanno fatto a partecipare a questa serata. Devo dire che per me è appena iniziato il lavoro, sono felice di poter riuscire ad avere dei giovani artisti da poter offrire ai teatri con una preparazione come ai miei tempi ho avuto io. Quindi io ringrazio e devo dirvi che abbiamo lavorato un poco più di una settimana con i cantanti che sentirete questa sera, sono tutti giovanissimi, tutti con una gran voglia di farvi sentire le loro belle voci e quindi accoglieti con un po' di calore, perché noi cantanti facciamo del nostro meglio, ma soprattutto siamo degli esseri umani e amiamo darvi delle emozioni.
Molti insegnanti di canto fanno gli insegnanti di canto senza avere neanche una più pallida idea.
Buon nombre de professeurs de chant enseigne sans avoir la moindre idée de ce que signifie le fait de chanter. Et on s'improvise professeur de chant, ce qui occasionne des cas tragiques, des jeunes qui viennent auditionner et qui n'ont pas de talent et qui ont malgré tout été encouragés au lieu d'être découragés de chanter. Car, et ceci est tellement important, quand un chanteur a du talent, il faut d'abord le comprendre et ensuite l'aider. Mais s'il n'en a pas, rien n'est possible. Rien ne doit se faire. À cet exemple près que si quelqu'un a le potentiel pour faire un second rôle, il faut l'encourager à ne briguer que cela. Car l'opéra est constitué de multiples apports, c'est une équipe.
Sei o di tre, ma ci vogliono anche, è un'équipe, è una troupe, è un gruppo.
C'est un groupe.
Io dico che sempre gli artisti nell'opera non sono tre, il tenore, il baritono, il soprano, mettiamo
le
bariton,
la soprano,
ma sono 80,
la mezzo-soprano.
C'è il coro,
les composantes sont multiples, il y a les chœurs, les figurants,
quindi,
et ceux qui n'ont qu'une phrase.
Una grossa responsabilità,
le professeur de chant a une responsabilité considérable. Hélas, il est souvent ignorant, ou pire,
incoscienza.
Inconscient.
Et quindi, fare un maestro di canto è una grande responsabilità.
Se dire professeur de chant una vita. Est une grande responsabilité, car on peut détruire une vie tout entière.
Thank you.
Alors, en ce qui concerne les élèves, je fais des auditions très précises, ne choisissant que ceux que je me sens capable d'aider. Mon académie est une école de haut perfectionnement, car il s'agit surtout d'interprétation. Ceux qui viennent savent déjà chanter. Ils ont besoin de se perfectionner, surtout dans l'interprétation, et de comprendre que l'on ne chante pas pour soi-même, mais pour le public. Ceux qui ont de la personnalité, c'est ça qui m'intéresse. C'est donc une sélection rigoureuse que la mienne, mais à mon sens, pour le bien de ces jeunes, bien que cela peut parfois sembler cruel. Mais je crois que c'est réellement pour leur bien, car j'aime trop l'opéra, le public, la musique. Et je pense que l'on doit faire des belles choses avec beaucoup de sérieux, jamais prendre cela à la légère. Et d'ailleurs, quel que soit le travail, même un employé de banque. Quelle que soit la profession, on doit y apporter un maximum de sérieux.
Thank you.
Un extrait du premier acte d'Otello de Verdi, Renata Scotto et Placido Domingo avec l'Orchestre Philharmonique National dirigé par James Levine.
Comment vous expliquez que Amina, Butterfly, Mimi, tous ces personnages qui ne sont plus des personnages d'aujourd'hui, pourquoi est-ce que tous ces personnages continuent à nous concerner tellement, à nous émouvoir tellement? Comment vous expliquez que ces opéras ont encore un tel pouvoir?
Avant
tout, je crois que lorsque le public décide d'aller à l'opéra,
va per passare una serata.
Il va pour passer une soirée, il va pour oublier ses propres problèmes. Il va pour oublier une discussion qu'il a pu avoir ce jour-là, pour s'éloigner de la vie quotidienne en somme. Il va pour se divertir, et ce divertissement peut être une grande émotion, peut-être même un drame. Mais il s'inscrit
quindi,
toujours dans le domaine du divertissement. Être témoin d'un personnage qui souffre et qui exprime sa douleur sur une scène nous divertit, car nous éloignons de nos propres soucis, même peut-être de nos propres douleurs. Nous nous laissons transporter dans une autre dimension, de l'imaginaire, du rêve.
Que noi vogliamo vivere,
que nous voulons vivre.
In effetti, quando una persona del pubblico,
et en effet, lorsqu'après la représentation, quelqu'un du public vient nous dire « Combien je me suis diverti, j'ai pleuré toute la soirée »,
aveva bisogno di,
que peut-on penser?
Trasformarsi,
que cette personne avait besoin de se transformer, de vivre un autre moment de fantaisie, d'imaginaire. Et ceci est capital pour moi. Et c'est un domaine du rêve qui peut être très important, qui peut atteindre l'âme du public parfois.
Thank you.
Avec cet extrait du Don Carlos de Verdi, Thomas Fulton à la tête de l'Orchestre symphonique de Budapest, nous refermons ce chapitre du portrait de Renata Scotto, que je remercie très vivement. Je vous rappelle qu'elle nous a reçus le mois dernier dans l'académie qui porte son nom à Albisola Marina, dans le nord de l'Italie. Le mixage de cette émission a été assuré par Geneviève Nguyen, la réalisation par Annie Roger. Bonne journée à tous.
Oh!
Renata Scotto incarne Madame Butterfly dans cet extrait de l'acte 2 de l'opéra de Puccini avec le Philharmonia Orchestra que dirige Laurine Mazel. Ainsi s'achève le dernier volet de cet entretien que Mildred Clary avait enregistré avec Renata Scotto en 1997. L'intégralité de ces trois émissions est à retrouver à la réécoute ou en podcast sur le site francemusique.fr ou sur l'application Radio France. Merci à Béatrice Trichet pour la réalisation ainsi qu'aux documentalistes de l'INA pour leur collaboration.
À réécouter sur francemusique.fr.